Matière à penser, Dominique Rousset.
Bonsoir à tous, c'est notre nouvelle série face à la catastrophe. Le pire n'est jamais sûr. Nous partons effectivement d'une situation, une catastrophe écologique annoncée, dans la survenue des plus guerres discutées, même si tout de même beaucoup de scepticisme encore et surtout peut-être de difficultés à appréhender les réalités. Ce que l'on sait en revanche, c'est que de très fortes inégalités sont à prévoir dans les effets de cette catastrophe écologique et dans les réponses qui vont lui être apportées, avec un modèle économique qui reste dominant, qui s'y prépare, pas très vite, mais qui s'y prépare, avec des armes à l'huile, l'assurance de risques climatiques, l'essor de finances environnementales, des tentatives bien sûr de régulation des marchés, des accords de coopération internationale. Nous avons fait le choix cette semaine d'aller vers d'autres approches pour lesquelles ce modèle économique justement n'est pas soutenable et n'est pas suffisant parce qu'il s'oppose à la nature au lieu de penser avec elle. C'est en tout cas l'avis de notre invité de ce soir. Nous allons donc parler de militer, de consommer, de partager, d'innover et de penser autrement la gestion des organisations sur une base très simple, la solidarité. Bonsoir Philippe Hénault.
Bonsoir.
Professeur en sciences de gestion à l'Institut d'administration des entreprises Paris 1 au Panthéon Sorbonne. Vous travaillez depuis très longtemps sur la question des organisations. C'est un courant de recherche qui est déjà ancien. Et vous insistez, on va le dire d'emblée, parce qu'on va voir que c'est dans le cours de votre travail, sur la pluridisciplinarité, la gouvernance des associations, pour mieux guider l'action collective, sur leur gestion, sur les limites aussi de la transposition des méthodes connues, appliquées aux entreprises, les limites de leur transposition à des associations ou des organisations. C'est un champ de recherche qui, de votre point de vue, quand même, connaît encore un grand déficit de réflexion. C'est pour ça que vous le défendez ardemment.
Oui, tout à fait. Dans ma discipline des sciences de gestion, le savoir s'est essentiellement construit dans l'interaction avec un objet de recherche, c'est-à-dire l'entreprise marchande. Il y a des travaux sur le management public, donc la question des administrations publiques, comment elles peuvent se gérer, s'organiser. Mais il y a assez peu de réflexion, quoique ça, maintenant ça change, et il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à la question, notamment grâce à la loi 2014 qui a permis de donner un cadre à ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Mais il y a encore un déficit de connaissances en gestion sur les autres organisations, celles qui sont non lucratives, celles qui brident les ressources, celles qui partent sur un principe de projet solidaire. Et moi, en travaillant depuis de nombreuses années sur la question des associations et aussi des nouvelles formes de coopératives, je m'intéresse à ces questions-là.
Pourquoi ces questions sont justement sous-estimées, en tout cas pas assez traitées, parce qu'on ne les trouve pas assez importantes dans notre société d'aujourd'hui? Ce qui est évidemment pas votre avis.
Je pense qu'il y a en fait un travail que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est de réhabiliter l'histoire d'un certain nombre d'auteurs solidaires qui n'ont été jamais convoqués ni pensés comme des références potentielles pour mon domaine et notamment les sciences de gestion. Donc il y a un travail de visibilisation à faire, il y a un travail de légitimation sans doute aussi à conduire autour d'organisations dont on pensait qu'elles n'étaient pas des organisations importantes parce que ne participant pas à l'économie productive.
Voilà, ne donnant pas assez de résultats économiques. Le livre dont vous parlez, Solidarité et organisation, à penser une autre gestion, c'est paru aux éditions RS et vous ne l'avez pas écrit tout seul, vous l'avez écrit avec un collègue brésilien, Genoto Carvalho de France Safio. On aura peut-être l'occasion de parler aussi de l'expérience brésilienne, mais déjà il y a beaucoup à dire sur la France. Sur ce constat de la catastrophe annoncée, c'est vous qui en parlez ainsi, Philippe Hénault, c'est aussi notre choix dans cette série, et vous dénoncez au fond l'attitude de la majorité qui n'est pas prête à écouter ce que vous qualifiez de Cassandre, vous en faites partie d'ailleurs, qui ne cessait d'alerter. Pourquoi? Parce qu'il y a un scepticisme qui persiste ou plus souvent on est dans un état de sidération, dans le fatalisme, qu'est-ce qui se passe?
Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui jouent dans l'insuffisance de prise de conscience des différents phénomènes que je pointe en introduction du livre. Je pointe ce que Luc Chancel appelle une double insoutenabilité, c'est-à-dire que la conjugaison sur de longues années d'accroissement des inégalités qui rendent le rapport des hommes entre eux difficile sur le plan social. Et puis, nous sommes informés bien sûr par les différents travaux du GIEC de cette insoutenabilité environnementale qui se double d'une perte de biodiversité. Et donc, cette double insoutenabilité, pour moi, est le point de départ de ma réflexion. Et j'essaie de voir en quoi on pourrait obtenir une réponse, non pas seulement en termes d'avertissement, de prise de conscience générale, mais mon travail est plutôt pour consister à faire l'inventaire des pratiques qui rentrent dans ces questions-là, qui sont capables d'entrer de front sur ces deux types d'insoutenabilité.
Votre réponse, c'est de penser la solidarité. Ça peut paraître un petit peu angélique, mais quand vous parlez de solidarité, on parle de solidarité, bien sûr, entre les humains, mais aussi entre l'humain et les autres êtres vivants, entre l'humain et l'animal, entre l'animal et le végétal, entre l'humain et le végétal. Vous ne dissociez pas les uns et les autres, parce que pour vous, l'enjeu, c'est vraiment d'organiser les acteurs et les activités économiques.
Oui, en fait, il y a un cercle vicieux qui s'est établi entre les inégalités sociales et les inégalités environnementales, les unes renforçant les autres. Et selon moi, on ne peut s'en sortir que si on prend les deux phénomènes en même temps et si on trouve des réponses communes et adéquates à ces deux enjeux pour inverser en fait le cercle vicieux en cercle vertueux.
Oui, mais là encore, comme vous venez de le dire, pour le constat sur la catastrophe annoncée, le concept de solidarité lui-même est méconnu, il est discrédité, ça veut dire qu'il a disparu.
Oui, je pense qu'il a toujours été présent. L'action collective ne peut pas être pensée sans la question de la solidarité. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit là-dessus. Et ceux qui ne l'ont pas mentionné comme tel ont pris en compte la question. Mais je pense que d'une part, ça a été invisibilisé par une vision de l'économie qui est souvent réduite à ce qu'on appelle l'économie de marché et qui ne permet pas de suivre avec pertinence la question des autres acteurs. Sur le plan statistique, on a eu quelques soucis aussi, puisque la comptabilité publique est basée sur trois agents, les administrations, les ménages et les entreprises. Et là, on ne voit pas les associations.
Quand vous dites on ne voit pas l'association, on ne voit pas non plus la société civile, c'est ça que ça veut dire
oui,
aussi?
Oui, on ne voit pas l'association, on ne la voit pas surtout sur le
organisée
champ économique.
Comme telle.
Dans
ouais.
ses capacités à ouais. fournir des emplois, dans ses capacités à donner plus de résilience au tissu industriel et commercial, et sur le plan des services, et on ne la voit pas non plus dans sa capacité à produire des réponses en termes de transition écologique. Tout mon travail, c'est justement pour montrer que si on fait ce travail de visibilisation, tout à la fois conceptuel et pratique, on peut avoir les chemins pour une transition écologique et sociale.
Et pour ces raisons, justement, de cette ignorance de l'association, on ne sait pas non plus comment la diriger, comment la gérer. Et c'est bien ça au cœur de votre sujet. Et je voudrais qu'on revienne assez loin en arrière, c'est vous qui le faites, hein, dans l'ouvrage dont nous parlons, 1941, chercheur nommé Burnham, qui parle de révolution managériale, mais pour vous c'est une tentative d'essai qui a été avortée, en fait c'est un rendez-vous manqué avec l'histoire, on est bien en 1941, déjà il voyait l'importance d'aborder l'association de manière différente que celle dont on aborde l'entreprise.
Oui, en fait, je fais dans l'ouvrage...
On l'a pas écouté, quoi.
En retour jusqu'à Adam Smith et Max Weber, hein, et je montre que certaines manières les sciences de gestion ont fait une lecture tronquée de ces deux auteurs, et notamment ont gommé toutes les dimensions qui auraient pu faire prise à une analyse et une compréhension de la solidarité. Et après, je montre que les sciences du management commencent historiquement, en tout cas tel que c'est présenté par la littérature anglo-saxonne, avec Taylor puis Mayo. Et Taylor et Mayo considèrent bien que il ne peut pas y avoir de lien entre l'entreprise marchande, son organisation et la politique et la société en général. Or, Burnham va faire cet ouvrage qui est publié en 1941, qui s'appelle La Révolution managériale. Il va voir dans le management, selon lui, l'aube d'une nouvelle société qui naît. Et donc, il lie la dimension économique des entreprises marchandes avec quelque chose de beaucoup plus global. Et il voit le management comme un outil de pacification du monde, comme une capacité de relier, c'est à l'époque...
Oui, on sort quand même, on est déjà dans une période troublée.
Dans une période troublée, donc qui prépare la guerre froide qui va venir. Et il voit dans le management une capacité de réponse de pacification et d'alliance entre le bloc communiste et le bloc capitaliste.
Donc apaiser les conflits, mieux avoir un juste équilibre entre les deux économies, ça va jusque-là? L'économie dirigée, l'économie capitaliste, ça pourrait se passer mieux avec un bon management?
Voilà, donc c'est une vision un peu naïve, un peu utopique, mais qui, pour la première fois, pose le management dans un cadre qui est bien plus large que celui de l'entreprise marchande.
Oui, mais le Taylor dont vous parlez, c'est bien celui quand même qui a perverti alors cette idée-là, parce que c'est pas vraiment ce que l'on retrouve dans le taylorisme.
Il l'a pas forcément perverti, puisqu'on le considère comme le pionnier, donc c'est lui qui
oui,
donne
mais après,
le « là »
ce qui s'est passé après lui.
De la théorie managériale. Et il va définir ce qu'on va caractériser après lui comme étant le management scientifique. Il va le faire à partir de bases qui sont une vision très froide. Hein,
c'est ça, il a oublié la dimension humaine, on ne la voit pas trop, non?
Il l'a oublié, mais après il y a quelqu'un qui va venir juste après, qui est Mayo, hein, qui va donner la source à tout ce qu'on appelle la théorie des ressources humaines, qui va montrer que l'approche de Taylor manquait un petit peu de chaleur et qu'il fallait prendre en compte l'attention qu'il est nécessaire de donner aux ouvriers pour envisager de meilleures productivités.
En tout cas, ce sont les idées évidemment qui ont prévalu. On va revenir aux associations, mais encore un peu d'histoire des idées. Ces méthodes de management donc efficaces sont répandues dans les administrations, dans les ministères, évidemment dans toutes les entreprises. Et si l'on en arrive jusqu'à nos années, mettons à partir des années 2000 quand même, au nom d'une certaine modernisation des services publics, on les repère partout aujourd'hui.
Oui, en fait, il y a eu une extension du champ de l'entreprise, et notamment de l'entreprise marchande. Moi, je l'ai observé sur le champ associatif, avec une transformation des rapports de l'État aux associations. C'est sur de longues périodes. Maintenant, on a noté une baisse des subventions accordées par l'État et les collectivités écolales aux associations, et une augmentation de ce qu'on appelle la commande publique ou les appels à projets compétitifs.
Appel d'offres
compétitifs qui supposent que les associations soient en compétition, mais qui supposent souvent aussi que les entreprises puissent accéder à ces marchés et se mettre en compétition avec les associations. Donc on a vu en fait un bouleversement de l'interaction entre les pouvoirs publics et les associations autour de la question de l'intérêt général. Ce rapport s'est marchandisé, en tout cas il est devenu compétitif, il est devenu assorti à un certain nombre de conditions qui ont poussé les associations d'une part à s'adapter, mais d'autre part à être en défaut par rapport à la question de la gestion de nos projets.
Mais de votre point de vue, ce n'est que préjudiciable pour les associations ou il y a eu quand même des points positifs? Est-ce qu'elles n'avaient pas besoin aussi, d'une certaine manière, d'un peu plus de régulation?
Sans doute. Ce que ça a permis de prendre conscience, je pense, c'est de l'importance de s'organiser, de gérer, de mutualiser. Et c'est vrai que les associations n'avaient pas jusqu'alors d'incitation forte à mutualiser. Donc en ce sens-là, la prise en compte de l'importance de s'organiser, l'importance de gérer et l'importance de trouver des modalités de travail et de travailler en coopération à plusieurs, je pense que ça c'est bénéfique. Ceci dit, ce qu'on observe, c'est quand même dans le champ associatif un grand nombre de fusions-absorptions qui font qu'on a qualifié ce champ de victime d'une course à la taille avec des opérateurs importants spécialisés dans ce mode d'appropriation des petites associations en difficulté. Et donc ça crée un problème important de transformation du champ associatif avec un renforcement des très gros acteurs, des petits acteurs qui restent présents mais qui sont essentiellement avec des effectifs bénévoles et puis une disparition, en tout cas une diminution du nombre des moyennes associations.
Bien sûr, et ce faisant on a perdu de vue un peu la solidarité qui est à la base quand même en principe du rôle de l'association avec cette culture de la performance, c'est ça. On ne parle pas que de l'association, d'ailleurs on parle aussi de nouvelles formes d'économie, alors on y arrive, solidaire, qui est en train d'émerger, qui est déjà...
Voilà, alors...
Qui existe déjà, mais qui n'est pas compatible avec cette culture de la performance, selon vous.
Oui, c'est-à-dire que le projet solidaire ne doit pas être vu seulement à sa viabilité financière. Parce qu'en fait, l'un des enjeux de la soutenabilité, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur la notion de double soutenabilité, c'est que tout ne peut pas faire l'objet d'une viabilité financière. Si c'était le cas, on ne serait pas dans le monde dans lequel on est. Donc il est besoin de penser en gestion et en économie aux moyens de pouvoir mettre en œuvre de manière très large toutes les opérations, les pratiques et les organisations qui sont capables de produire cette soutenabilité de nos sociétés. Et ce, dans des contextes où la dimension marchande n'est pas suffisante.
Avec votre collègue, en fait, on l'a dit, vous avez écrit cet ouvrage, Solidarité des organisations, et l'organisation avec François Fillio, donc votre collègue brésilien. En fait, ce que vous entendez, c'est quoi? C'est de poser des bases d'une autre science des organisations, d'une autre gestion. Est-ce que vous partez d'un dialogue nord-sud entre grands pays latino-américains, où on sait quand même que les associations sont très présentes, et pays du Nord, c'est votre point de départ?
Oui, je pense que les sciences de management sont victimes d'une certaine focalisation sur la littérature anglo-saxonne. Et c'est d'ailleurs dénoncé par des anglo-saxons eux-mêmes. Il y a un ouvrage auquel je fais référence dans mon livre qui s'appelle New History of Management, une nouvelle histoire de management, où ces auteurs qui ont travaillé sur les 60 dernières années à partir de ce qui a été publié en histoire du management. Et il montre qu'il y a une focalisation de ses travaux sur tous les terrains en Amérique du Nord ou en Grande-Bretagne, l'Europe continentale très peu présente, l'Afrique et le Sud en général pas pris en compte. Donc je pense qu'il y a besoin dans ces disciplines d'un travail international qui se fasse en dehors de la zone anglo-saxonne. Et c'est dans ce cadre-là que le travail avec le Brésil ou l'Amérique du Sud est particulièrement pertinent parce qu'on a une proximité intellectuelle qui est forte. Et on a la capacité de mettre à jour des réflexions et des analyses qui ne sont pas perçues sur le plan international parce qu'elles sont essentiellement produites dans les langues de chacun de ces pays.
Mais Brésil, par exemple, si on reprend l'exemple de ce pays, vous citez plusieurs cas d'ailleurs dans l'ouvrage de ce qui s'y passe. Est-ce qu'ils ont, je ne sais pas, un contact plus proche avec le monde vivant, avec la réalité, avec la solidarité que l'on opposerait à la liberté, l'économie de marché?
Oui, je pense qu'il y a toute une distance critique qui est assez forte, qui est développée par tout un courant là-bas qui s'appelle un courant de gestion sociale, qu'il faudrait plutôt traduire comme gestion solidaire. Et puis ils ont un auteur sur lequel j'ai beaucoup travaillé et que j'apprécie beaucoup, Guerrero Ramos, qui a posé la question de cette attention qu'il fallait avoir à ne pas penser la théorie d'organisation seulement à partir des organisations marchandes, mais voir la diversité des formes organisationnelles, de les cultiver pour cultiver la richesse et la résilience du tissu économique.
Et pour laisser tomber un peu tous les a priori de l'économie dominante.
Oui.
C'est beaucoup ça aussi. Hein.
Ouvrir le pluralisme, ouvrir l'approche de la diversité, ouvrir la compréhension que chaque forme organisationnelle a sa façon de s'organiser, a son projet, ses modalités de gouvernance et aussi ses formes de rationalité. Ce que Guerrero Ramos montre, c'est qu'il ne faut pas réduire la rationalité des différentes formes organisationnelles qu'on peut recenser dans nos sociétés, à celle qui est la rationalité calculatoire, instrumentale, mise en place dans le cadre des organisations marchandes, où tout peut se réduire à du monétaire.
Et quand c'est comme ça, on arrive aux inégalités. Vous pensez que ça peut être un des facteurs des inégalités croissantes que l'on observe partout dans le monde ?
Mais oui, quand on a un cadre conceptuel qui ne permet pas de voir les associations, qui ne permet pas de voir les coopératives, les mutuelles, qui ne permet pas de voir l'économie populaire...
Et
donc les gens, qui ne permet pas non plus de voir l'économie domestique. Autant de choses qu'un auteur qui m'a été particulièrement utile avec Guerrero Ramos et Carl Polanyi montre. Carl Polanyi dit qu'il ne faut pas réduire l'économie à l'économie de marché. Pour lui, c'est une sorte du domaine du sophisme, un sophisme économiste, comme il l'appelle. Une tromperie qui fait que on ne peut plus voir les organisations qui participent de démarches de réciprocité, qui participent de démarches de redistribution ou qui participent d'un partage domestique. En ouvrant la question de l'économie à ce qu'il appelle l'économie substantive, on ouvre à des questions qui sont directement en rapport avec la solidarité. La redistribution, c'est une forme de solidarité, la réciprocité en est une. Et ce qui se passe dans le cadre du partage domestique est souvent du ressort de la solidarité.
J'aimerais rester deux secondes sur cette question du travail domestique qui refait surface beaucoup aujourd'hui. On dit même qu'il est en pleine expansion. C'est un phénomène très, très typique quand même de l'époque que nous vivons aujourd'hui.
Oui, alors notamment au Brésil,
où il y a
vraiment un problème d'emploi, un problème d'inégalité qui est très très criant, très fort, et où les familles vont trouver des modalités de survie, des familles dans les quartiers. Donc on voit que l'économie populaire a une capacité de faire réseau sur ces logiques familiales pour les étendre à des quartiers, à des espaces dans lesquels la solidarité va s'exprimer. Et donc le travail de mes collègues brésiliens, c'est d'essayer de partir de cette économie populaire pour en faire ce qu'ils appellent une économie populaire solidaire. Nous en France, on parle d'économie sociale et solidaire, ils parlent d'économie populaire et solidaire.
Populaire et solidaire, mais avec pas mal, disons, une histoire quand même. Ça n'est pas récent, je ne parle pas des régimes politiques actuels que l'on voit en place, mais c'est une histoire ancienne quand même, l'association dans les pays d'Amérique latine. On l'a vu au Chili, on l'a vu au Pérou.
En fait, le phénomène des associations ou de la pensée associationniste, ça remonte au début du 19e siècle. Donc c'est une histoire très très longue, mais qui a été en grande partie invisibilisée, qui a été décrédibilisée et qui fait l'objet d'une redécouverte fort récente et une redécouverte partielle. Pour l'instant, il y a un renouveau solidaire dans le sens où un certain nombre d'acteurs économiques de premier plan ont compris qu'on était dans une situation très difficile et qu'il fallait réagir. Et donc on voit le marché essayer de se moraliser et de promouvoir des notions telles que la philanthropie. La philanthropie, c'est une forme de solidarité, mais c'est une forme de solidarité à minima. C'est pas une solidarité qui va rentrer dans un cadre démocratique. C'est pas une solidarité qui va s'inscrire dans des démarches telles que celles dont on vient de parler, la réciprocité, l'ancrage populaire, l'ancrage dans l'économie domestique.
Justement, est-ce que cet ancrage populaire est plus présent dans les pays d'Amérique latine, ce dont vous parlez, le Brésil et ses voisins?
Oui, le concept d'économie populaire est incontestablement. Ouais. Nous, on va parler d'économie informelle pour essayer de décrire le même phénomène. Et vous voyez bien que derrière les termes, il y a une différence d'approche.
Le pire n'est jamais certain. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Mais pour ça, faudrait déjà qu'il y ait un tunnel. On voit un tunnel là où il y a juste un chemin. Mais d'un chemin, on peut sortir et filer dans les décors. Le pire n'est jamais certain. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'on n'y voit pas très clair, un peu comme si quelqu'un avait éteint la lumière. Il y a de la lumière dans les souterrains, mais pas sur les chemins. Surtout quand on marche la nuit, que le soleil fuit, d'un chemin où on peut sortir, grimper sur le talus et filer dans les décors. On n'y verra pas plus clair pour autant, autant rester sur le chemin. Et puis après tout, qu'est-ce qu'on craint? Le pire n'est jamais certain. Il y a de la lumière dans les souterrains, il y a des néons sur le plafond, il y a des néons sur les portes qui vont vers les escaliers de sécurité. Où vont ces escaliers? Jamais essayé. Ça m'a toujours paru une mauvaise idée. Le pire n'est jamais certain. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel, mais pour ça faudrait déjà qu'il y ait un tunnel. Et dans le tunnel, faudrait déjà qu'il y ait quelqu'un. Il y a quelqu'un? Peut-être que c'est juste moi. Juste moi qui parle et juste moi qui crie. Il y a peut-être personne pour me tenir compagnie. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Vaut mieux que marcher que monter dans un train. D'un chemin, on peut sortir. Grimper sur le talus et filer dans les décors. On n'y verra pas plus clair pour autant. Autant rester sur le chemin. Puis après tout, qu'est-ce qu'on craint? Le pire n'est jamais certain.
France Culture, matière à penser, Dominique Rousset.
En compagnie ce soir de Philippe Hainaut, professeur en sciences de gestion, situé d'administration des entreprises, c'est Paris 1, hein, l'université Paris 1, Panthéon Sorbonne, et à propos de l'ouvrage qu'il a publié, nous venons de parler du Brésil, avec son collègue Genauto Carvalho de França Filho, Solidarité, Organisation, Pensée, une autre gestion. Philippe Hainaut, oui, on parlait de cette méconnaissance au fond de la gestion nécessairement différente de l'association, qu'on a un peu oublié en route, on a trop eu tendance à la comparer à l'entreprise, à la traiter comme l'entreprise. Il y a des auteurs solidaires, au fond, des penseurs solidaires. Denis Tocqueville, vous l'avez bien compris quand même, cette tension individu-collectif.
Oui, Tocqueville est intéressant parce que il a posé toute une analyse sur les associations et il a notamment fait une réponse à Adam Smith. Réponse qui n'a pas tellement été entendue puisqu'on l'a considéré comme un non-économiste, donc n'étant pas pertinent, mais par exemple, la notion de main invisible qu'on a retenue d'Adam Smith.
La fameuse main invisible du marché.
Voilà,
oui.
Même si on peut en fait critiquer cette lecture d'Adam Smith, hein, Alain Delmotte le fait et montre que la main invisible est un concept assez peu développé par Adam Smith lui-même et plus développé par les acteurs qui l'ont suivi. Dans cette notion de main invisible, donc, on pose l'idée que l'addition des égoïsmes individuels fait la richesse des nations. Tocqueville va dire que ça, ce n'est pas possible, que c'est une douce utopie, quoi, de transformer des égoïsmes individuels en création de valeur pour la nation. Et il dit que, en fait, la question, c'est comment transformer des intérêts particuliers en intérêt général. Et pour lui, il faut prendre en compte ce qu'il appelle l'intérêt bien entendu. Il va prendre en compte cet aspect-là au niveau des associations qui pensent être les lieux où des démarches démocratiques peuvent s'exercer et où la question des affaires publiques peut arriver jusqu'à la conscience des citoyens que nous sommes. Ça, c'est intéressant parce que ça ouvre tout de suite la question de la gouvernance démocratique, qui est une question qui est toujours évincée, jamais prise en compte dans le cadre des organisations marchandes.
Et là, on en vient à ce que vous défendez très fermement dans ce livre, et puis aussi depuis de nombreuses années, hein, je crois que je l'ai signalé en commençant, c'est vraiment votre sujet, cette gestion des organisations. Elle doit être intrinsèquement solidaire, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se détacher de la solidarité. Et vous faites deux propositions, en jouant bien sûr sur les mots, réorganiser la solidarité. C'est un long chapitre de votre livre, et resolidariser l'organisation. On va les prendre l'une après l'autre. Vous faites référence aux auteurs, vous avez déjà cité Guerreiro Ramos, le Brésilien, mais également Karl Polanyi. On peut y revenir si vous le souhaitez. Mais qu'entendez-vous par réorganiser la solidarité?
Réorganiser la solidarité, c'est d'avoir le cadre conceptuel qui permet de la approcher, de la comprendre et de la mettre en pratique. Et c'est en ce sens-là que Karl Polanyi nous est utile, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc il propose d'élargir la notion d'économie aux questions de redistribution, de réciprocité et de partage domestique, et ça permet de visibiliser tout le travail qui est fait par notamment les organisations d'économie sociale et solidaire. En ce sens-là, il nous est particulièrement utile. Mmh. Il permet d'ouvrir la question de l'organisation à d'autres formes organisationnelles que celles qui participent de l'économie marchande.
C'est-à-dire, il réconcilie l'économique sociale, il revient sur des choses plus...
Surtout, il visibilise des activités qui, autrefois, avant lui, sans son cadre conceptuel, sont considérées hors économie. Or, il y a tout un enjeu pour être dans l'économie ou ne pas y être. Et l'enjeu que je vois aujourd'hui en termes de sous-habillé, c'est nos capacités de nos sociétés à se reproduire à l'identique, et donc nos capacités de nos sociétés à prendre en compte la notion de la reproduction. La solidarité, notamment par la notion de partage domestique et de redistribution, permet cette reproduction de nos sociétés. Dans un cadre de soutenabilité, c'est particulièrement important d'avoir cette ouverture-là, parce que ça nous donne l'idée d'une autre économie, une économie étendue aux organisations solidaires, et ça nous donne aussi, c'est un petit peu l'objet du l'ouvrage sur lequel on a travaillé, Jenna Otto et moi, l'idée d'une autre gestion. Cette autre gestion, on va la chercher chez Guerrero Ramos, qui défend aussi l'idée qu'il y a différentes formes d'organisation, ils appellent ça des enclaves, et qu'il y a une organisation dominante qui a tendance à s'étendre sur les autres par les pratiques et par les modes opératoires, qui est l'organisation marchande. Et selon lui, il faut protéger des différentes enclaves pour préserver des différents modes opératoires et ne pas étendre la rationalité calculatoire et instrumentale mise en œuvre dans l'espace du marché et sa traduction monétaire aux autres formes organisationnelles.
D'autres formes d'organisation, ça veut dire se rapprocher de la nature, c'est-à-dire être avec elle et non pas contre elle. Là, on touche vraiment à l'enjeu écologique.
Cet enjeu-là touche toutes les organisations, qu'elles soient marchandes ou non marchandes, et que ce soit aussi celles qui hybrident les différentes logiques. Donc je pense que l'enjeu d'aujourd'hui, c'est de modifier totalement les pratiques. Et pour modifier les pratiques, il faut déjà prendre conscience de comment appréhender les questions de solidarité, comment comprendre les organisations qui sont en capacité d'offrir ces approches de solidarité, comment les promouvoir et comment promouvoir les pratiques qui participeront de ce que Karl Polanyi appelle un réencastrement de l'économie dans la société.
Ouais. Mais par exemple, Philippe Hainaut, professionnaliser le management d'une association, ou prenons des exemples classiques, les soumettre à l'audit, les soumettre à la vision d'un consultant, tout ceci, vous le rejetez pour les associations ?
Non, pas du tout. En fait, il y a...
Ce sont des méthodes très modernes, évidemment, mises en avant par les entreprises dites
Je pense que ma discipline
efficaces.
Est utile et que de pouvoir mettre en place une réflexion autour de l'objectif et des valeurs, les moyens qui sont mis en œuvre et les résultats qui sont obtenus sont importants. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a trois formes de ce qu'on appelle la redevabilité, cette notion de rendre des comptes pour l'ensemble des organisations.
La redevabilité, oui, tout ce qui est... Oui.
Donc, d'être à la fois responsable de ce que l'on fait et pour rendre des comptes sur ce que l'on fait. Il y a trois types de redevabilité qui peuvent concerner les associations. La première qui concerne la redevabilité qu'on dit ascendante face aux financeurs, qu'ils soient publics ou privés.
On lui doit des comptes.
On lui doit des comptes. Une deuxième redevabilité qui est celle qu'on rend aux acteurs proches, qui peuvent être les salariés ou les bénévoles dans le cadre d'une association. Et puis une troisième redevabilité qui est de l'ordre de ce qu'on appelle la redevabilité externe, qui va toucher des acteurs partenaires, qui va toucher les usagers, les bénéficiaires. Ce qu'on voit en fait, c'est que par le prisme marchand, on a tendance... Il y a beaucoup d'ouvrages là-dessus, à dire qu'en fait, les associations doivent se penser comme des entreprises et donc elles doivent penser leurs bénéficiaires comme des clients. Et que la redevabilité qui est importante, c'est celui qui paye. Donc la redevabilité première, celle ascendante, et celle qui prime au détriment des deux autres. Or, c'est mettre à mal le projet associatif, qui est justement de rassembler un grand nombre d'acteurs autour de projets de soutenabilité. Et cette réduction du rendu des comptes à un seul type d'acteur, celui qui offre l'apport monétaire, est préjudiciable pour la capacité de mettre en place un projet de type solidaire et en mettre en place une gouvernance de type démocratique.
C'est ça, c'est une soumission en fait aux pressions financières. C'est-à-dire, il y aurait des pressions pour inciter aux bonnes pratiques, mais cette soumission fait perdre l'intérêt collectif au détriment du plus fort, en l'occurrence le financeur, qui peut se retirer, qui peut menacer de se retirer.
Oui, qui peut menacer de se retirer, mais en fait, tout l'enjeu, c'est un enjeu de renouveau de l'action publique. L'enjeu, c'est d'arriver à trouver des synergies positives entre les acteurs marchands, les acteurs non marchands, l'État et les acteurs associatifs et coopératifs et plus largement tous ceux qui participent des communautés sociales et solidaires pour trouver des moyens, les capacités de travailler ensemble pour avoir les bonnes pratiques ouvertes, distribuées sur les questions de soutenabilité, qu'elles soient à la fois sociales et environnementales. Et l'idéal, bien sûr, c'est de pouvoir conjuguer les deux parce que le temps nous manque maintenant par rapport aux enjeux économiques et sociaux, pour faire la transition qui est nécessaire.
Il vous effraie ce manque de prise de conscience. Vous dites le temps nous manque. Et les Cassandres, c'est vous qui parlez des Cassandres que l'on a du mal à entendre, qui prêchent un peu dans le désert alors qu'elles ont raison.
Ça m'inquiète, je ne suis pas le seul. Il y a un auteur qui s'appelle Jim Bendel qui vient de sortir une réflexion. C'est un spécialiste des questions de soutenabilité. Et qui dit qu'il faut d'ores et déjà penser à ce qu'ils appellent le Deep Adaptation Agenda, donc l'adaptation à une transformation profonde de nos écosystèmes et de nos sociétés. Je pense faire part de cette réflexion est importante, mais ce qu'il faut toujours et de manière urgente, c'est de penser c'est la résilience de nos économies et leur capacité à s'engager dès le départ dans la transition. Et ça doit venir pas seulement des États, ça doit venir aussi de tous les acteurs citoyens, de toutes les organisations, de toutes les petites organisations aussi. Il faut qu'un certain nombre de pratiques soient impulsées et généralisées, qu'elles soient mises ensemble de concert pour participer de cette adaptation nécessaire qui est
alors,
en jeu.
Alors, puisque justement nous voulons dire dans cette série d'émissions que le pire n'est jamais sûr, et nous le pensons, vous vous inquiétez effectivement d'une prise de conscience insuffisante, mais à l'inverse, vous observez une émergence vraiment puissante et vraiment positive de toutes ces associations que vous souhaitez voir s'exprimer différemment. Vous êtes plutôt positif là-dessus, Philippe.
Oui, il y a plein de choses qui existent et qui méritent d'être revues. Si on reprend la notion de marchandise fictive de Karl Polanyi, il nous dit en fait qu'il y a trois objets qui n'étaient pas pensés, ni prévus, ni adaptés à être des marchandises, qui sont le travail, la monnaie et la nature, qui ont tour à tour été marchandisés par l'évolution du capitalisme. Et donc, ce qu'on observe, c'est un certain nombre d'initiatives de l'économie sociale et solidaire qui sont en capacité de démarchandiser le travail.
Oui, d'inverser la proposition.
Ouais. Et c'est vraiment sur ce travail de réencastrement qu'il faut agir si on veut avoir plus de soutenabilité.
Alors, par exemple, prenons un peu les exemples pour arriver jusqu'à cette gouvernance démocratique. Il y a plusieurs formes. Je remonte sur vos propositions de gouvernance. Il y a celle que vous appelez la gouvernance multipartie prenante, qui n'est pas la plus simple à réussir. Tous les acteurs autour d'un projet commun. Alors évidemment, c'est bien pour les qualités justement de management, tout le monde va le faire en même temps. Ensuite, il faut quand même arriver à concilier les avis différents.
Oui, alors il y a des vrais enjeux sur le réchauffement climatique. Là, j'ai suivi un terrain dans l'Assise centrale sur la préservation des prairies à fleurs variées, où une association a mis en place une démarche multipartie prenante, c'est-à-dire rassembler autour de la table les acteurs locaux, qu'ils soient des acteurs économiques, des acteurs institutionnels,
tous ceux qui sont concernés,
les acteurs de la science, différents types de sciences, les entreprises, et faire en sorte que tous ces acteurs du territoire participent du projet. Et vous voyez que quand on veut rassembler des acteurs aussi différents en tour de table, ça demande une méthodologie, une gouvernance particulière qu'on appelle la gouvernance multipartie prenante. Ça permet de couvrir les acteurs d'un territoire concerné plus ou moins de manière proche par la question et être en capacité de répondre à des enjeux globaux qui sont ceux de nos sociétés aujourd'hui.
Ça marche là dans le cas que vous citez ?
Oui, ça marche, ça évolue, ça permet de faire comprendre à chacun des acteurs qu'il a un rôle à jouer vis-à-vis des autres et pas seulement dans son espace. Ça permet aussi de voir que quand on rallie un certain nombre d'acteurs pertinents, compétents autour d'un projet global, on peut arriver à obtenir des solutions dans un temps relativement
court. Et dans un projet, je veux dire, qui les concerne, qui est impactant.
Voilà. La force aussi, selon moi, de l'économie solidaire, c'est de pouvoir ancrer ces démarches dans des territoires locaux et d'avoir la force de cet ancrage au service de réponses adéquates aux problèmes qui se posent sur ces territoires.
Oui, c'est une des conditions pour que ça fonctionne. Gouvernance inclusive, c'est la deuxième proposition. On va arriver à gouvernance démocratique. Là, c'est plus on partage, on échange. Tout le monde contribue selon ses moyens. L'association Emmaüs, ça serait une bonne illustration de ça. On participe à la prise de décision, mais c'est pas toujours simple non plus, surtout si on a affaire à des personnes qui viennent de l'exclusion sociale.
Oui, c'est ça, c'est un deuxième enjeu, parce que élargir le collège d'acteurs autour de la gouvernance, c'est quelque chose qui est jouable, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler, je pense que c'est tout à fait bénéfique, mais c'est pas parce qu'on a beaucoup de personnes autour de la table qu'elles sont en capacité de prendre parole, en capacité de partager les décisions. Donc il y a à la fois un travail extensif, être capacité à rassembler toujours plus d'acteurs, mais aussi une capacité inclusive, faire en sorte que ces acteurs puissent y jouer un rôle. C'est vrai que plus on est sur des personnes qui ont été longtemps exclues du jeu social ou d'espace de décision, plus la difficulté est grande. Donc ça suppose des méthodologies appropriées, ça suppose des démarches d'accompagnement, ça suppose des démarches de remise en question de la hiérarchie des savoirs, de capacité de dialogue entre les personnes.
Mais excusez-moi, là vous touchez à la question de la formation qui se pose aussi très largement dans les entreprises traditionnelles.
Oui, bien sûr.
De la montée en compétences.
Oui, bien sûr. Après, dans le champ associatif, la question de la compétence va pas seulement concerner les salariés, mais va concerner aussi tous les acteurs qui s'engagent, les acteurs militants, les acteurs bénévoles et les volontaires.
Troisième forme, donc, c'est la forme démocratique qui font l'idéal, quoi, celle qui allie les deux autres, une vraie démarche solidaire, citoyenne, et qui s'exprime de quelle manière ? Sur un territoire donné ?
Voilà, donc ce que j'ai proposé dans l'ouvrage, c'est qu'à la croisée d'une approche extensive de type gouvernance multipartie prenante et d'une approche intensive de type gouvernance inclusive, on pouvait définir l'objet d'une gouvernance démocratique idéale, celle qui est capable de rallier un grand nombre d'acteurs et de leur donner un espace dans le jeu de la codécision.
Mais alors ça passe par qui? Alors qui prend en charge tout cela? Quel est le rôle du politique là-dedans, par exemple?
Le rôle du politique, c'est que c'est travailler autour de la notion d'utilité sociale, de la notion d'intérêt général, et d'avoir un vrai dialogue entre ces acteurs citoyens qui s'organisent sur les territoires et les acteurs institutionnels et qui représentent le pouvoir, l'action publique, l'État, les collectivités locales, d'avoir l'espace d'une co-construction.
Avec une redistribution, avec un meilleur partage des richesses, par exemple. Vous allez loin, vous faites des propositions qui peuvent être, enfin on les connaît déjà dans les associations, qui vont jusqu'à une circulation monétaire désintéressée. Vous avez parlé de la monnaie tout à l'heure,
restons sur cet exemple. Ça part de l'idée de retravailler sur la question de la protection sociale à partir des cadres qui sont ceux d'aujourd'hui, et donc de pouvoir avoir une vraie réflexion sur le travail et sur les enjeux du travail. Ça suppose une réflexion sur les monnaies, et donc la monnaie, ne pas réduire la question de la monnaie à seulement l'expression monétaire des devises nationales, mais concourir à favoriser le développement des monnaies locales, des monnaies sociales. Et là, il y a tout un champ d'invention dans le monde entier qui est vraiment très intéressant et qui participe de ce travail de réencastrement de l'économie dans la société.
Où est-ce que ça marche bien, la question des monnaies? On sait qu'il y a plusieurs exemples en France, dans plusieurs régions.
Il y a énormément d'exemples en France, mais...
Ailleurs dans le monde?
Le cas brésilien était très intéressant, puisqu'ils ont depuis longtemps monné des monnaies sociales, et là, ils sont en train de monter un projet de monnaie qui relierait toutes les monnaies locales et qui aurait une composante numérique, avec une application qui permettrait de convertir des sommes en devises nationales vers ces monnaies sociales. Et la possibilité pour un acteur qui passe d'un territoire à l'autre de pouvoir, avec son application, intervenir sur plusieurs marchés locaux avec la même monnaie. Donc on voit ici une première tentative au Brésil d'essayer d'unifier ces différentes monnaies sociales pour leur donner un poids plus grand en termes d'action économique.
Mais ça veut dire en tournant résolument le dos à l'économie de marché?
Non, il ne s'agit pas de tourner le dos à l'économie de marché, mais il s'agit de construire des alternatives à cette économie de marché. Il s'agit d'enrichir le tissu économique par des approches qui ne se réduisent pas à l'économie de marché, parce que des questions de soutenabilité ne peuvent pas être prises en compte seulement par l'espace marchand. On voit bien que là, on est sur des formes d'aporie, on ne peut pas aller plus loin que ce qui a été fait, enfin, difficilement, étant donné les habitudes et tout ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Par contre, il y a tout un travail de longue haleine et qui a une forte expérience du côté des organisations sociales et solidaires et qui peut participer en s'hybridant, en travaillant de concert avec l'ensemble des acteurs, que ce soit les acteurs marchands ou les acteurs étatiques, à la promotion de toutes ces actions de soutenabilité. Oui. Sociale et environnementale.
Y compris des activités qui n'ont rien à voir avec les échanges marchands, je sais pas, le sport, la culture, peut rentrer dans ce domaine-là de gouvernance démocratique?
Oui, bien sûr. Il y a énormément d'expériences d'approche démocratique dans le cadre de la culture. Moi, je travaille avec des acteurs qui sont des acteurs comme l'UFIS, comme Opal, comme la Fédélima, qui participent de cette recherche de nouvelles formes de culture, promotion de la culture indépendante et promotion des formes associatives de type démocratique.
Pour revenir encore une fois sur d'autres continents, vous mettez en avant l'approche amérindienne. Et là, on est sur la question du rapport de l'humain avec la nature. On l'a dit, je crois, en commençant, le rapport de l'humain avec tous les êtres vivants, végétal et animal aussi, que cette culture-là, évidemment, n'a pas oublié.
Oui, c'est ça. Je pense que la discipline dans laquelle je suis, les sciences de gestion, remonte au plus loin avec Taylor. Mais il y a bel et bien eu de l'organisation, de l'action collective avant. Le secret des pyramides, c'est le secret en partie organisationnel. C'est-à-dire que les sociétés antiques, amérindiennes, les sociétés premières, avaient une connaissance des formes organisationnelles. Et elles avaient une forme de sagesse. C'est-à-dire que dans la culture amérindienne, quand on coupe un arbre, on en plante un autre. Il y avait la notion aussi, l'idée que ce n'est pas la terre qui appartient aux hommes, mais les hommes qui appartiennent à la terre. Donc il y a tout un courant de sagesse et de savoir sur le plan organisationnel, notamment en termes de soutenabilité, qui a été totalement évincé de l'analyse comme n'étant pas pertinent.
Ce que les latinos appellent le buen vivir.
Le buen vivir, oui. Alberto Acosta en parle. Donc cette notion de bien vivre qui est un bon principe pour repenser à la fois nos tissus économiques, nos organismes économiques et nos façons de vivre en société.
Que nous aurions un peu oublié. Les travaux sont insuffisants. Là, vous parlez de votre courant à vous, Philippe Hainaut, est-ce qu'il vous semble qu'il reste encore beaucoup à faire sur ces questions, définir l'économie sur les territoires, réfléchir à d'autres formes de démocratie, d'autres formes de gestion des associations? On est pauvre?
On est pauvre et on est riche. Actuellement, il y a deux courants de pensée qui me semblent porteurs. Celui dans lequel je travaille, qui est celui de l'économie sociale et solidaire, et un autre à laquelle je participe de plus en plus, qui est la notion des communs. Les communs, donc, ça commence... C'est connu avec en 2009 avec le prix Nobel qui est donné à Elinor Ostrom, la première fois qu'on a donné un prix Nobel à une femme, et qui pose la question des communs. Initialement, c'est la question des communs dits physiques, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse aux pêcheries, elle s'intéresse aux systèmes d'irrigation, aux forêts. Elle essaie de voir dans quelle mesure ces ressources peuvent être protégées, non pas par une réglementation et un contrôle de l'État, non pas par le marché, puisqu'il est difficile de poser des barrières sur la mer, mais par des organisations de communautés d'acteurs sur le terrain, communautés de pêcheurs par exemple, qui vont ensemble définir des règles et ensemble les faire respecter pour préserver la ressource sur laquelle ils travaillent.
Des biens communs à l'humanité, bien
voilà.
Entendu.
Alors, ce qui est intéressant dans cette démarche de biens communs, vous voyez, c'est que c'est pas seulement une question de ressources partagées, mais c'est aussi une question de définition de règles communes, et c'est aussi une définition d'une gouvernance. Et là, ça rejoint un petit peu toute la réflexion dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant aussi dans la démarche des communs, et ça donne une actualité forte à ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Elinor Ostrom a travaillé avec Charlotte Hess. Elles ont produit ensemble un travail de réflexion qui a abouti à reconnaître des ressources communes digitales au travers des logiciels libres, et donc de pouvoir, dans la même approche théorique, associer la question du numérique à la question de l'organisation solidaire. On a pas mal de rapprochements des deux mondes, parce qu'il y a beaucoup d'activités de conceptualisation et aussi de pratiques de terrain qui se réclament tout à la fois de la notion des communs et de la notion d'économie sociale et solidaire.
Oui, les communs qu'il s'agit de gérer ensemble et pour le meilleur bien de l'humanité. J'aime bien votre toute dernière phrase, je crois qu'elle est dans votre chapitre de conclusion, Philippe Hainaut, que j'ai envie de la citer. À l'instar de la permaculture, on sait aujourd'hui ce qu'est la permaculture, hein, l'agriculture et la permanence et l'observation vraiment des phénomènes de la nature pour bien gérer la terre. Vous proposez de construire un permanagement, c'est-à-dire management et soutenabilité. Et vous dites, au fond, il faut bien accepter nos limites, atterrir quelque part.
Oui, je pense que tout mon travail, là, en tout cas sur cet ouvrage, a été d'essayer d'articuler la question de la soutenabilité avec la question du management. Et je suis très attentif à cette approche de permaculture, qui veut dire à culture permanente. Et donc, parler de permanagement, c'est envisager un management qui puisse se penser sur la longue durée et dans sa soutenabilité, et dans toutes les formes de soutenabilité, qu'elles soient sociales ou environnementales. À ce titre-là, ça me paraît intéressant de faire la comparaison. Et aussi, il y a une dernière chose qui m'intéresse, c'est que les approches sur la préservation de la biodiversité participent, selon moi, du travail que j'essaie de faire sur un autre mode. Je vous ai dit, donc, ma réflexion est là pour préserver différents votes d'organisation, différentes rationalités dans ces organisations-là, et donc la biodiversité peut avoir un écho dans ce qu'on peut appeler la sociodiversité, la préservation des autres formes d'organisation qui ne sont pas des organisations marchandes.
Le pire n'est jamais sûr, Philippe Hainaut, vous confirmez?
Oui.
Merci à vous et merci pour cet ouvrage tout à fait intéressant, avec des exemples brésiliens. On a rapidement abordé quelques-uns, solidarité et organisation, penser une autre gestion, et c'est paru aux éditions RS. Et merci bien sûr à notre petite équipe de ce soir, Anne-Laure Chanel en compagnie de Pierre Monteil et puis Sandrine Chaperon et Catherine Donnet pour la documentation, pour la préparation de nos émissions et pour tous les titres et suggestions qu'elles vont mettre sur notre site franceculture.fr. Très très bonne soirée à tous.